de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers bonsoir, voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le président Jokowi mentionne le déplacement de la capitale lié à la grande vision de la nation. Batam sera la première ville forestière en Indonésie. La première dame a planté des mangroves et relâché les gelbondoles à Batam. Le vice-président Yusuf Kalla souhaite que les négociations de libre-échange soient achevées à la fin de l'année. L'Indonésie et la Turquie discutent d'une négociation de partenariat économique global. Le ministre des Affaires étrangères a dit que le président rend la visite en Malaisie aujourd'hui. Et enfin, les négociations de l'accord commercial préférentiel entre l'Indonésie et le Mozambique s'achèvent en 2019. Voici le journal complet. Le président du Covid-19 a dirigé une réunion restreinte du cabinet mardi après-midi au bureau présidentiel à Jakarta pour discuter du projet du gouvernement de déplacer la capitale en dehors de l'île de Java. Dans sa direction, le président a indiqué que la capitale de l'État se déplacerait sur l'île de Kalimantan. Mais le gouvernement doit étudier diverses choses complémentaires avant de choisir l'une des provinces de l'île de Kalimantan qui remplacera Jakarta. Selon lui, le déplacement de la capitale sur l'île de Kalimantan doit être adapté avec une grande vision de la nation indonésienne.
Kajian-kajian yang berkaitan dengan kebencanaan, baik itu banjir, baik itu gempa bumi, kajian yang berkaitan dengan
les études liées aux catastrophes comme inondation ou séisme, les études sur la capacité de charge environnementale, y compris la disponibilité de l'eau, des terres, des infrastructures, les études sur l'économie, le plan démographique, sociopolitique, la sécurité et la défense. Tout doit être vu plus en détail, de sorte que la décision ultérieure soit la bonne décision dans notre future vision. Et encore une fois, nous décidons cela, je déciderai plus tard, non pas en tant que chef de gouvernement, mais en tant que chef de l'État. Nous devons voir la grande vision dans 10 ans à venir, 5 ans à venir, 100 ans à venir, dans notre pays et dans notre État. En outre, le président Joko Widodo a également insisté sur le fait que l'étude menée par le gouvernement en se référant au modèle d'apprentissage d'autres pays qui ont réussi à déplacer la capitale. En outre, le président Joko Widodo a également demandé à son personnel de fournir un schéma financier, une structure institutionnelle dotée de l'autorité ainsi que des lois et des réglementations permettant de déplacer la capitale. Siti Nurbaya Bakar, la ministre de l'Environnement et de la Forêt, ou KLHK, et de l'ambassade du KLHK, a déclaré que Batam sera la première ville forestière en Indonésie. Lors de son discours à la commémoration de la Journée nationale de la conservation de la nature dans le parc touristique de Muka Kuning, mercredi 7 août 2009, elle a déclaré que la Chine a appliqué le concept de ville forestière et la ville de Batam serait la première ville à le mettre en œuvre. Cela est conforme aux instructions du président Joko Widodo concernant les efforts de conservation qui sont en ligne avec l'éducation.
Pak Presiden sih merintahin ke saya di setiap TWA-TWA.
Le président m'a ordonné que chaque parc de tourisme naturel ou zone de conservation située à proximité de la ville reçoive des interventions de développement car il est très utile pour la conservation et également pour l'éducation de la communauté. Selon la ministre City, le développement aux dimensions environnementales devait établir un lien entre la conservation in situ ou dans son habitat naturel et la conservation ex situ ou dans un habitat externe, pour soutenir d'autres fonctions telles que la vie sociale, économique, prospère et esthétique. Par conséquent, la complétude des éléments à développer avec des dimensions environnementales telles que la disponibilité d'eau propre, d'air pur et sain, de beauté naturelle et de propriété sont des aspects très importants. Batam possède ces aspects et peut devenir une ville forestière. Le concept de ville forestière est un développement urbain durable. La première dame Iriana Joko Widodo a planté des mangroves et relâché l'aigle bondole à Batam mercredi le 17 août 2018. Cette activité a été menée conjointement avec le cabinet de l'Organisation de solidarité Action Work OASE et le ministre de l'Environnement et de l'Ambassade de KLHK, Siti Nurbaya Bakar, comme une série d'activités commémoratives de Journée nationale de la conservation de la nature 2019. La ministre Siti Nurbaya Bakar, dans son discours à l'apogée de la commémoration de la Journée nationale de la conservation de la nature au parc touristique de Muka Kuning, a déclaré que la participation de la première dame était un signe que la protection de la conservation était devenue une préoccupation du public.
Urusan konservasi sekarang menjadi bagian dari.
C'est-à-dire que les questions de conservation préoccupent maintenant les citoyens de notre pays. Je crois que nous sommes tous heureux parce que la première dame s'inquiète tant pour les mangroves qui sont précieuses et peuvent réellement apporter une aide sociale à la population. La première dame invite tout le monde. La ministre City a ensuite expliqué que lors des discussions du G20 à Osaka au Japon à la fin du mois de juin, Madame Iriana avait expliqué les mangroves indonésiennes et la façon dont l'Indonésie s'intéressait aux mangroves. Au total, 170 000 tiges de mangroves ont été plantées dans 34 provinces indonésiennes. Il a expliqué que les mangroves sont la deuxième meilleure plante pour stocker le carbone après la taupe ou l'équivalent de 5 fois la forêt normale. De nos jours, l'Indonésie compte plus de 3 millions de mangroves, dont 54% sont situés dans des zones forestières, 46% se trouvent en dehors de ces zones et à certains endroits constituent des sites industriels. Liang Aseka, sa partie élabore actuellement des règlements pour résoudre le problème de la conversion des terrains de mangroves. Lors du sommet sur le climat de septembre à New York, le président Joko Widodo soulevera le problème de la conservation de la mangrove. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla espère que l'accord sur des négociations de coopération de l'essence entre l'Indonésie avec les pays et les régions ayant de grandes possibilités commerciales à attendre à la fin de l'année. Selon le vice-président Yusuf Kalla, la coopération de l'essence encouragera le secteur industriel en Indonésie pour accroître sa production et ses exportations vers les pays et les régions destinataires. Le vice-président, lorsqu'il était conférencier principal lors du séminaire sur les perspectives du marché Banque Mandiri à Jakarta, mercredi a déclaré qu'après avoir conclu un accord de libre échange avec l'Australie dans le cadre de l'accord de partenariat économique global Indonésie-Australie de mars dernier, il y a encore trois négociations qui peuvent être finies immédiatement jusqu'à la fin de 2019. Le vice-président a indiqué qu'il y avait des pourparlers suivants avec plusieurs pays partenaires et pays de la région, entre autres le système de préférence générale avec les États-Unis, l'accord de libre-échange Indonésie-Union européenne, l'accord de libre-échange avec la Corée du Sud, le Japon, la Chine et l'ASEAN. L'Indonésie et la Turquie ont discuté des progrès de négociation d'un accord de partenariat économique global. Cela a été transmis par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, après avoir accompagné le président Joko Widodo lors de la remise des lettres de créance de 12 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires au président au Palais Merdeka Jakarta mercredi. L'agence de presse Antara a rapporté l'un des représentants d'un pays ami qui a remis une lettre de créance est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Turquie en Indonésie, Mahmoud Erol Kilic. En ce qui concerne l'accord de partenariat économique avec la Turquie, la ministre Retno Marsudi espère que les négociations s'achèveront cette année. L'année prochaine, l'accord pourrait être signé lorsque l'Indonésie commémorera les 70 ans des relations diplomatiques avec la Turquie. Il a expliqué que le président turc Recep Tayyip Erdogan prévoit également de se rendre en Indonésie en 2020. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que le président Joko Widodo rend la visite en Malaisie aujourd'hui, jeudi. La ministre Retno Marsudi a déclaré aux médias à Jakarta mercredi que le président Joko Widodo doit tenir plusieurs autres deux jours avec le premier ministre malais, Mahathir Mohamad. Après ça, le président se rend directement à Singapour, car le président Jokowi, le sultan de Brunei et le premier ministre malais ont été invités par le premier ministre de Singapour à célébrer la fête nationale de Singapour. Antara a rapporté, le président rentrera immédiatement en Indonésie vendredi soir. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que les négociations d'un accord commercial préférentiel ou PTA entre l'Indonésie et le Mozambique étaient terminées. C'est ce qu'a déclaré la ministre Retno Marsudi après avoir accompagné le président Joko Widodo lors de la présentation des lettres de créance de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Palais Merdeka à Jakarta mercredi, a annoncé Antara. 12 ambassadeurs extraordinaires au pouvoir ont soumis leurs lettres de créance au président Joko Widodo, y compris l'ambassadeur de la République du Mozambique, Belmiro José Malat. Lors de ses discussions avec le président, M. Belmiro a discuté du potentiel de l'amélioration d'une coopération bilatérale. Les négociations de l'accord commercial préférentiel seront signées lors du dialogue sur les infrastructures entre l'Indonésie et l'Afrique qui s'éteindra à Bali les 20 et 21 août. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir, chers auditeurs. Voici le commentaire d'aujourd'hui intitulé « L'encouragement d'utilisation des énergies renouvelables ». Les coupures d'électricité survenues récemment dans la plupart des régions de Java, Bali et Lampung ont eu de graves répercussions sur de nombreux ménages et industries. Les pertes ont été calculées pour atteindre des milliards de roupies et PTPLN est prêt à payer les pertes dues à ces coupures. La dépendance à un type d'énergie est devenue une menace pour la survie. L'énergie provenant de fossiles, du pétrole et du charbon est progressivement remplacée par une énergie renouvelable et respectueuse de l'environnement provenant de la nature et des déchets. En ce qui concerne les énergies renouvelables, le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales, ESDM, continue d'encourager et de faire campagne pour l'utilisation d'une énergie respectueuse de l'environnement à partir des ressources naturelles abondantes en Indonésie. L'une des énergies qui continue à faire l'objet d'une campagne est la production d'énergie solaire, PLTS. Cette énergie solaire est bien plus utile si l'on considère la position de l'Indonésie sous les tropiques avec la quantité de lumière solaire émise pendant un temps assez long et abondante. Dans le cadre de la campagne, le ministère de l'Énergie et des ressources minérales, en collaboration avec le gouvernement provincial de Jakarta, a commencé l'installation de la centrale solaire de Toi, qui devrait être achevée en 2022. Pour simplifier le programme, le gouvernement de Jakarta a publié l'instruction du gouverneur numéro 66/2019 concernant l'accélération de la mise en œuvre du contrôle de la quantité de l'air à Jakarta. En outre, plusieurs provinces indonésiennes ont déjà utilisé le PLTS et plusieurs autres régions sont en cours d'exploration. Le directeur général des énergies nouvelles et renouvelables et de la conservation de l'énergie, EBTKE, du ministère de l'énergie et des ressources minérales, FX Sutijastoto, à Jakarta, a déclaré que les efforts du gouvernement de Jakarta devraient générer une électricité atteignant 1000 à 2000 MW. Même si tout est bien construit, cela peut créer un marché pour les panneaux solaires de 400 jusqu'à 500 MW. Ce chiffre a dépassé la quantité idéale estimée à 300 MW, de sorte que l'usine de panneaux solaires peut être construite de manière économique en Indonésie. Indépendamment de la maintenance et de la charge de la consommation d'électricité qui est assez importante en Indonésie, le gouvernement doit fournir un espace pour trouver et utiliser des énergies renouvelables compte tenu de la croissance économique et démographique. Même s'il est assez tardif par rapport à certains pays d'Asie du Sud-Est, l'Indonésie doit pouvoir fournir une énergie respectueuse de l'environnement. Le développement de l'énergie solaire est assez coûteux. Cependant, coopérer avec des parties étrangères qui ont initié à utiliser ce type d'énergie est la bonne mesure à prendre pour réduire les coûts. Espérons qu'avec la disponibilité d'énergie alternative, l'approvisionnement en électricité du pays pourra être satisfait et les coupures d'électricité soudaines et tournantes pourront être évitées. Serge Auditeur, c'était le commentaire.
Bonsoir à tous. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 8 août. On commence par le 8 août 1945. L'Union soviétique a déclaré la guerre au Japon. Le 8 août 1945, le dirigeant de l'Union soviétique, Joseph Staline, a déclaré la guerre au Japon. Avant, les Soviétiques et le Japon avaient signé un traité de non-agression. Mais après que les Américains aient bombardé Hiroshima et que le Japon se préparait à s'abandonner, les Soviétiques ont saisi cette occasion pour s'emparer de plusieurs territoires japonais. La suite, la fondation de l'ANASE, le 8 août 1967. Le 8 août 1967, à Bangkok, Thaïlande, 5 représentants du pays d'Asie du Sud-Est, à savoir le ministre indonésien des Affaires étrangères Adam Malik, le vice-premier ministre et ministre malaisien de la Défense et du Développement national, Tun Abdul Razak, et le ministre philippine des Affaires étrangères, Narciso Ramos, le ministre singapourien des Affaires étrangères, Rajaratnam, et le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Thammat Homan, se sont rencontrés et ont signé la déclaration de l'ANASE ou la déclaration de Bangkok. La déclaration de Bangkok a marqué la création de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ou abrégée en ANASE. Il y a maintenant 10 membres de l'ANASE. La dernière, l'Indonésie et la Chine ont signé un mémorandum d'accord sur la normalisation des relations diplomatiques le 8 août 1990. Dans les archives historiques, les relations entre l'Indonésie et la Chine étaient gelées depuis octobre 1967 car on pensait que la Chine était derrière du coup d'État par le Parti communiste indonésien, ou abrégé en PKI, en 1965. Les relations ont atteint un tournant avec le début de la normalisation de leurs relations le 8 août 1990 par la signature d'un mémorandum d'accord par le ministre indonésien des Affaires étrangères, Ali Alatas, et le ministre chinois des Affaires étrangères, Chiang Kai-shek, à Jakarta. Avec cette normalisation, l'Indonésie et la Chine sont entrées dans une nouvelle phase de la coopération bilatérale, marquée notamment par la visite de responsables gouvernementaux et de la population des deux pays. Voilà l'histoire d'aujourd'hui. Yeah.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée « Untuk Indonesia » chantée par Gak. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici mon Indonésie intitulée « Le gouvernement a cessé d'octroyer de nouveaux permis de gestion dans les forêts primaires et les tourbières ». Le gouvernement a cessé d'octroyer de nouveaux permis de gestion dans les forêts primaires et les tourbières par l'instruction présidentielle sur la cessation de l'octroi de nouveaux permis et l'amélioration de la gouvernance des forêts naturelles primaires et des tourbières. L'instruction présidentielle signée lundi par le président Joko Widodo est une mise à jour de l'instruction présidentielle numéro 6 l'année 2017 et comprend des changements ayant des retards à cessation de l'octroi de nouveaux permis et l'amélioration de la gestion des forêts naturelles primaires et des tourbières. Cela a été annoncé par la ministre de l'Environnement et des Forêts, Mme Siti Nurbaya, après avoir assisté mercredi à l'apogée de la Journée nationale de la conservation de la nature 2019 au parc de tourisme naturel de Muka Kuning à Batam. Madame Siti Nurbaya a déclaré que la politique a été établie après une surveillance sur l'élaboration et l'évaluation de la mise en œuvre de l'instruction présidentielle numéro 10 l'année 2011 à l'instruction présidentielle numéro 6 l'année 2017 concernant le rapport de l'octroi de nouveaux permis et l'amélioration de la gouvernance des forêts naturelles primaires et des tourbières. La zone de retard dans l'octroi du permis est décrite spatialement dans l'indicateur de report indicatif pour l'octroi d'un nouveau permis, renouvelé tous les 6 mois. Une étude de la Direction générale des forêts et de la planification environnementale du ministère de l'Environnement et des Forêts sur la série d'analyses de données sur le retard de la délivrance de nouveaux permis montre que la superficie de la carte indicative du report de l'octroi de nouveaux permis est restée relativement constante, environ 66 millions d'hectares. La nouvelle instruction présidentielle signée par le président, entre autres, l'instruction au ministre de l'Environnement et des Forêts, le ministre des Affaires intérieures, ministre des Affaires agraires et aménagement du territoire, et aussi le chef de l'Agence foncière nationale, le ministre de l'Agriculture et le ministre des Travaux publics et du Logement, le chef de l'Agence d'information géospatiale, le gouverneur et régent, le maire pour ne plus généralement accorder de nouveaux permis de gestion dans la zone de la carte indicative du report de l'octroi de nouveaux permis. Le décret présidentiel comprend également une ordonnance visant à améliorer les politiques en matière de gestion des permis, de gestion des terres dégradées et d'utilisation des émissions de carbone. Le gouvernement prévoit des exceptions aux cartes indicatives du report de l'octroi de nouveaux permis en ce qui concerne les licences existantes et obtenu l'approbation de principes, le développement vital, l'extension du permis, la restauration des écosystèmes, les routes d'évacuation en cas de catastrophe naturelle, la préparation du gouvernement central et aussi du gouvernement régional, les projets stratégiques nationaux et les intérêts de la défense et le soutien de la sécurité publique. C'était mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
De Jakarta, voici la Voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
berubah sejuta kali. Memandang kamu, ku tetap jatuh cinta setiap waktu. Hanya kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku, yang menjadi pilihan hati. Kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku. Bahagiakanmu sejuta kali. Memandang kamu, ku tetap jatuh cinta setiap waktu. Hanya kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku, yang menjadi pilihan hati. Kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku.
International de la Voix de l'Indonésie 2019. S'il vous plaît, remplir le formulaire de participation et répondre aux questions. Pour plus d'informations, restez à l'écoute de notre diffusion et visitez notre site web www.voinews.id. Vous pouvez remplir le formulaire de participation et répondre aux questions que vous pouvez obtenir via notre page Facebook, The Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée « Juara di Hati » chantée par Bastien Steele. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs, on se rencontre encore dans le programme radiophonique « Le magazine culturel ». Ce soir, on va parler de la cascade de Guru Gemurai à Riau. Kuantan Singingi, une régence de la province de Riau, est célébrée pour son tourisme culturel, tel que Pacu Jalur, et également pour ses attractions naturelles, telles que la cascade. Il y a plusieurs attractions magnifiques cascades que vous pouvez visiter. L'un d'entre eux est la cascade de Guru Gemurai. Le nom de Guru Gemurai est tiré de la langue locale. Guru signifie le rugissement de la cascade, tandis que Gemurai signifie le son des éclaboussures d'eau. Cette désignation est appropriée car après être arrivé à l'emplacement de la cascade, vous entendrez le grand rugissement de l'eau. Le bruit de cette chute d'eau Tony Truant a été créé à cause de l'emplacement de la cascade Gurugumurai, assez haute, d'environ 20 mètres, avec une source d'eau provenant de la zone forestière protégée de Bukit Betabu. La cascade de Gurugumurai a sept niveaux avec des hauteurs variables. En plus de sa forme enchanteresse, le fond de la cascade est une piscine. À gauche et à droite de la cascade, il y a des rochers et une forêt vierge. L'air est tellement frais et confortable. Pour se rendre au bas de la cascade, le responsable a construit un escalier en béton afin d'accéder plus facilement à l'emplacement. Vous devez faire attention car les escaliers sont assez raides. Ensuite, pour atteindre un autre niveau de cascade, vous pouvez monter les escaliers au bord des rochers. En voyageant ici, vous pourrez profiter de la fraîcheur de l'eau en vous baignant dans les bassins de la cascade. La cascade de Gurugumurai est située dans le village de Kassan, district de Kuantan Mudik, dans la régence de Kuantan Singingi, Kuansin. Kuansin se trouve à environ 30 km du centre-ville en direction de Kiliranjau, qui borde Sumatra-Ouest. La cascade est située à environ 3 km de la chaussée Kuansin-Kiliranjau. Pour entrer dans cette destination touristique, il suffit de payer 4000 rupiahs par personne, 2000 rupiahs pour les véhicules à deux roues et 4000 rupiahs pour les véhicules à quatre roues. Les installations fournies par les responsables, telles que vestiaires, toilettes, parking et salle de pierre. Chers auditeurs, voilà le magazine culturel.
Keceriaan bersama teman-teman seperjuangan. Bersama temanku habiskan masaku, lalui waktu penuh kebahagiaan. Menari bersama, bernyanyi gembira, bergandeng tangan itari taman ria. Bersama jalani, bersama lalui berbagai kisah.
Habis
Chers auditeurs, c'était la chanson de Deredia intitulée Teman Seperjuangan. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la vie suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'Indonésie en couleur intitulée Le Festival de Buleleng 2019. Le Festival de Buleleng 2019 s'est tenu de 6 au 10 août dans la ville de Buleleng, en Provence, Bali. Selon l'agent de développement du marketing du ministère du Tourisme, Rizky Handayani, le festival Buleleng 2019 est tout à fait unique avec une nuance de culture balinaise. Ce festival est convivial pour tous, y compris les membres de la génération A, parce qu'il y a un contenu de salon de l'emploi. Selon le titre Shining Buleleng, le festival culturel présentera également les événements intéressants tels que des arts, culture, expositions, gastronomie, le divertissement, le carnaval et le salon de l'emploi. Cependant, l'emplacement est réparti sur 5 points, à savoir le monument Singa Ambara Raja, la rue Ngurah Rai, la rue Veteran, la rue Pahlawan et la rue de Gunung Agung. Le festival de Buleleng 2019 a été ouvert par la représentation de Nostres Band, Starlight et Harmonia Band, accompagné de la danse Pratwala Nilayam et la danse colossale Ayuning Binika Sakti. Le deuxième jour, les visiteurs peuvent profiter de l'attraction de la danse créative du lycée public Ang Singaraja Gong Kebiar et ensuite l'action de Anji. Cependant, à Wantilan Sasana Budaya, il y a la représentation de Tabu Kembang Kirang, Angklung Kebiar et Semara Pegulingan. Le 10 août, lors de la cérémonie de clôture, le chanteur Anmes Kamaleng apparaîtra. Sa performance sera associée à des couleurs traditionnelles balinaises telles que la danse de Legong Mandara Giri et les Bondres Telekontong Mas. Le festival Buleleng 2019 est plus parfait avec exposition culinaire typique telle que Blayak Buleleng, Jukut Undis, Sudang Lepet, Sobak Kelok et Sate Plecing. Le ministre du Tourisme Arif Raya a apprécié le festival Buleleng 2019. Selon lui, un mélange de nuances locales balinaises présentées de manière contemporaine permettra d'optimiser le marché des millénaires. cela peut stimuler le mouvement de tourisme et avoir ainsi un impact positif sur l'économie. Cela a été admis par le régent de Buleleng, Putu Agus Suratnyana. Il a dit que le mouvement des touristes est assez compétitif dans la région Buleleng. En 2017, le mouvement de touristes étrangers a atteint plus de 681 000 personnes. Ce nombre augmente 12,3% par rapport à 2016, qui atteint plus de 607 000 touristes étrangers. Selon Agus, le festival Buleleng 2019 est la meilleure destination pour des vacances. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Kau anggap besar seakan hidup ini berakhir. Tidakkah kau merasa harusnya kau berpikir masalahmu yang kecil tidak sebanding dengan apa yang dirasakan banyak manusia di luar sana. Hai, cobalah kau melihat dunia di sekitar dengan mata hatimu. So Your love, come on people. Hingga engkau mengerti tidak banyak manusia seberuntung dirimu yang berharap uluran tangan tak kunjung datang, namun senyumnya tak pernah hilang. Jadi mulai sekarang cobalah tetap senang saat cobaan datang, karena itu akan selalu datang dan hilang seperti hari, siang dan malam. Hai, cobalah kau melihat dunia di sekitar dengan mata hatimu. Give me your love, your love, your love, your love, come on people. Dari senyuman mereka. So come on people, let's do it now. Let's do it now. Langkah manusia menjadi nyata. Bukan berkata. Dari senyuman mereka.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée Dunia Sekitar, chantée par Malik et d'Essentiel. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonsoir, chers auditeurs. Cette édition, je vais parler d'une chanson de Chris Dayanti. La carrière de Chris Dayanti au cadet dans la musique a commencé quand elle a gagné le festival Asia Bagus au Japon en 1992. Elle a rejoint Warner Music Indonesia et a sorti son premier album en 1995 intitulé « Ce que tu veux » en 1995. Depuis le succès avec le hit single intitulé « Menghitung Hari » en Malaisie en 1998, le nom Chris Dayanti est plus connu. Le point culminant de sa carrière a été marqué par le succès de son premier concert solo intitulé « KD » en 2001 qui l'a conduit au titre « Pop Diva Indonesia ». La chanson, intitulée « Comme tel jour », composée par Melly Goeslaw, raconte une jeune fille qui espère que son histoire d'amour se termine s'il n'y a pas de sincérité de sa part de son amant. Bon, serviteur, voici donc la chanson de Chris Dayanti intitulée « Comme tel jour ». Bonne écoute et à demain.
Menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti apakan ada? Jelang cerita, kisah yang panjang, menghitung hari. Padamkan saja kobar asmara, jika putih itu takkan ada. Yang aku minta tulus hatimu, bukan puitis. Pergi saja cintamu, pergi. Bilang saja pada semua, biar semua tahu adanya diriku kini sendiri. Saja kobar asmaramu, jika putih itu takkan ada. Yang aku minta tulus hatimu, bukan puitis. Pergi saja cintamu,
sudah cukuplah, sudah ku memberikan waktu, yang selalu tak bisa mencoba untuk setia, yang selalu ku inginkan, yang selalu ku nanti.
Chers auditeurs, c'est à l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.